VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Midi à Bamako, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. Au Mali, les femmes à l'armée malienne, victimes d'une nouvelle embuscade entre Diabali et Nampala dans la région de Ségou, dans le centre du pays. Le bilan de provisoire de cette attaque mercredi, 2 morts, plusieurs blessés et de nombreux disparus. Les détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est tout serein et confiant que ce convoi de ravitaillement des FAMA a quitté Diabali afin de mettre le cap sur Nampala, le camp le plus avancé de l'armée malienne dans la région de Ségou. C'est en quittant la zone de Diabali, plus précisément le village de Tingré-Finadji, que des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur les militaires maliens. Les véhicules d'escorte qui se trouvaient derrière le convoi ont été touchés. C'est dans leur mouvement d'apporter du soutien à ceux-ci qu'un autre groupe caché a coupé le convoi en deux. C'était aux environs de 17h et le convoi de ravitaillement de l'armée malienne tomba ainsi dans cette énième embuscade entre Nampala et Diabali. Bilan provisoire, 2 morts, des blessés et plusieurs disparus. Dans le feu de l'action, 2 blessés graves sont arrivés à Diabali avant d'être évacués vers l'hôpital régional de Ségou. Par ailleurs, les écoles et mairies de Gouro et Saré dans le cercle de Youarou, région de Mopti, ont été incendiées ce même mercredi 31 mai 2017 par des individus armés non identifiés. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, un accord entre le gouvernement et les démobilisés. Des anciens rebelles qui avaient manifesté leur colère il y a 10 jours à la suite des primes perçues par des soldats mutins. Le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko confirme qu'un accord a été trouvé mais sans donner de détails. Pour le point de vue des démobilisés, Siri Kibaro, notre correspondant à Bouaké, épicentre des mutineries en Côte d'Ivoire, a joint Mamadou Ouattara, porte-parole adjoint de la cellule 39.
Il faut dire que vous connaissez un peu les événements qui sont déroulés à Bouaké. Il fallait chercher d'abord à négocier avec le ministre de l'Intérieur, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Après les échanges avec le ministre d'État, on a eu à discuter. Il y a eu un accord qui a été retenu. Et je pense que dans l'accord, il y a vraiment une satisfaction entre l'État et nous. L'accord nous a plu et nous avons évalué le contour de l'accord et nous avons trouvé que c'est pas ça juste valeur et ça intéresse les ex-combattants et c'est ce qu'on attendait depuis fort longtemps. Je vous garantis, il faut le retenir. À ce qui me concerne, il n'y aura plus de soulèvement sur toute l'étendue du territoire après avoir trouvé un accord avec le gouvernement. Donc c'est ce qu'il essaie de dire. L'État a accepté de nous tendre la main et nous sommes arrivés à Abidjan. Il y a un accord qui a été trouvé. Et dans l'accord, vous le saurez très bientôt. Vous allez voir que les choses sont en train de rentrer en ordre et c'est ce qu'il faut retenir.
Mamadou Ouattara, porte-parole adjoint de la cellule 39 des démobilisés en Côte d'Ivoire. Afrique centrale maintenant, la RC à tête de liste cette année du classement des crises oubliées établi par le Conseil norvégien pour les réfugiés, le NRC. Numéro 2, la RDC et 3e, le Soudan. 6 pays africains figurent dans cette liste de 10 pays. Les 3 autres, Soudan du Sud, Nigeria et Somalie. Les autres États incluent Yémen, Palestine, Ukraine et Birmanie. Le critère retenu par l'ONG NRC sont l'insuffisance de l'aide humanitaire pour couvrir les besoins essentiels, un intérêt des médias limité et l'absence de volonté politique pour résoudre les crises en question. En RDC, le président congolais Joseph Kabila continue sa visite au Kasaï, son premier séjour officiel dans la région depuis le début des violences meurtrières qui ont fait des centaines de morts à partir de septembre 2016. Des dizaines d'ONG congolaises et internationales ont demandé aujourd'hui à l'ONU d'ouvrir une enquête sur le conflit. Un communiqué signé par plus de 200 organisations dont Human Rights Watch et la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH. Une enquête internationale indépendante est nécessaire pour documenter les abus, identifier les responsables et aider à garantir la justice pour les victimes, précisent les auteurs de l'appel. On ne peut rien attendre des enquêtes nationales congolaises, a déclaré pour sa part à l'AFP Rostin Manketa, directeur exécutif de la Voix des Sans-Voix, une ONG de la RDC. Depuis septembre 2016, la région du Kasaï est secouée par la rébellion de Kamuina Nsapu, chef traditionnel tué lors d'une opération militaire en août 2016, après s'être révolté contre les autorités de Kinshasa.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Gabon Samuel Mebiam, fils de l'ex-premier ministre gabonais Léon Mebiam, a été condamné à 2 ans de prison ici aux États-Unis dans une affaire de corruption. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Samuel Mebiam, 43 ans, est reconnu coupable d'avoir servi d'intermédiaire dans le versement de pots de vin 2007 et 2017 à des responsables gouvernementaux au Tchad et au Niger pour obtenir des contrats et des concessions minières. Résident à Paris avant son arrestation, Mebiam était poursuivi au titre d'une loi américaine qui permet de sanctionner les entreprises et individus coupables de corruption partout dans le monde. À l'époque, il travaillait pour une entreprise gérée en partie par Oxfam Capital Management. Cette société a été condamnée fin septembre à payer une amende de 413 millions de dollars par la SEC, le gendarme boursier américain, pour mettre fin aux poursuites qui le visaient. Ce groupe était accusé d'avoir versé des pots de vin pour obtenir des contrats miniers au Tchad, au Niger, en Guinée et en République démocratique du Congo.
Au Burundi, pratiquement tous les quartiers de Bujumbura, la capitale, font face à un manque de courant électrique. L'administration publique, tout comme le privé, tourne au ralenti et la situation est particulièrement difficile pour ceux qui vivent des petits métiers. Le gouvernement burundais parle des faibles précipitations qui n'alimentent plus les centrales hydroélectriques. De Bujumbura, reportage de notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Ce bruit de moteur électrique devient le quotidien pour les nationaux ou étrangers vivant dans la ville de Bujumbura, située près du lac Tanganyika, un des plus profonds du monde après le Baïkal. Les quartiers des Biza, Nyakabiga, Bouyanzi et autres centres-villes regorgent de petits et gros moteurs électriques pour aider les mécaniciens, électriciens, garagistes et propriétaires de petits métiers pour permettre de vivre au quotidien. L'administration étatique et privée est lourdement concernée car le délestage peut durer plusieurs heures. Ce chef de garage travaille depuis 28 ans. Il reconnaît que la situation de son garage ne s'améliore guère depuis le début des délestages.
Nous faisons face à de sérieux problèmes dans notre travail au quotidien. La soudure, la peinture, tout est électricité. C'est vraiment difficile ces derniers temps. Même celui qui possède un groupe électrogène ne peut pas travailler car il n'y a pas de gasoil. Nous demandons au gouvernement de l'électricité pour notre travail au quotidien.
Ce cri de détresse du garagiste, c'est le même que celui d'un coiffeur que nous avons rencontré près de l'endroit communément appelé Bata au centre-ville, en face de l'ancien marché central. Ce coiffeur reconnaît la diminution des rentrées, le rendait ainsi incapable de payer ses dettes.
Le problème que nous avons, c'est de les déstages, tout simplement c'est ça. Nous gagnons un peu de l'argent.
Un électronicien rencontré à l'avenue de la mission de Bujumbura affirme que les temps actuels sont vraiment difficiles pour bon nombre de citoyens burundais car ils sont souvent traités d'escrocs par les clients à cause du manque d'électricité.
Un client vous amène un appareil pour réparer, vous lui donnez un rendez-vous et après quelques minutes, il y a coupure de courant. Donc là, quand il revient, il vous chambarde. Il dit que vous êtes un voyou, vous êtes un escroc, vous ne faites rien, alors que c'est à cause de la coupure de courant.
Ces dames travaillant dans une société d'assurance veut que le délestage soit programmé.
On se réveille très tôt le matin et arrivé au bureau, on trouve qu'il n'y a plus de courant. Avec les déplacements, matin, soir, nous consommons sans produire. Il faut qu'on nous avise et puis le jour où il y a du courant, on sait et on travaille.
Plus loin, près de l'église Saint-Michel au centre-ville, une femme travaillant pour une société privée estime que l'on ne peut pas aujourd'hui parler de délestage, mais plutôt de manque d'électricité.
S'il y a délestage, c'est que lundi on a électricité, mardi il n'y en a pas, puisqu'on a donné aux autres. Mais maintenant, c'est absence d'électricité tout court. Et c'est toute la ville presque.
Le service communication du directeur de l'électricité à la régie des eaux indique que les faibles précipitations restent la cause principale des niveaux d'eau très bas dans les lacs de retenue qui n'arrivent plus à alimenter les centrales thermiques. En outre, le même service remarque que le barrage de Guegura ne produit plus que 6 MW à la place des 18, tandis que le barrage de Mugere n'en produit que 3 à la place des 8 MW. Depuis l'année 1988, aucune centrale thermique n'a été construite au Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Et pour terminer, actualité américaine, le président Donald Trump doit annoncer ce jeudi à 19h, temps universel, sa décision sur la participation des États-Unis à l'accord de Paris sur le climat. Un accord qu'il avait promis d'annuler durant sa campagne électorale. Selon les médias américains, un retrait de l'accord est probable. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.